avait deux preneurs de son. On avait deux filles qui disaient qui posaient les questions. Une fille qui posait les questions, une autre qui disait bonjour mesdames et tout.
Moi j'avais posé les questions à deux madames, Sophie et Anne-Liv.
On a posé des questions sur l'environnement, sur tout ce qui se passe, sur la pollution à Anderlecht.
On avait appris c'est quoi exactement les CO2, le plan climat, et on avait aussi appris comment sensibiliser les jeunes du quartier pour comme ça ils respectent un peu mieux la pollution.
Bonjour,
la radio des enfants qui s'engagent.
Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans notre école des marronniers à Anderlecht. Nous vous avons invité dans le cadre d'un projet que nous faisons en collaboration avec une classe du Togo en Afrique. En commun, nous avons décidé de travailler sur le thème « La pollution de l'environnement ». Nous avons préparé quelques questions pour en savoir plus.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors moi je m'appelle Anne-Liv Myrène et je travaille à la commune d'Anderlecht comme coordinatrice du plan climat.
Mais moi, je m'appelle Sophie Ronce, je travaille aussi à la commune, dans le même service qu'Anne-Liv, au service développement durable, et je m'occupe de tout ce qui est éco-conseil.
En quoi consiste votre travail ?
Alors, mon travail, c'est d'élaborer le plan climat, de faire un plan climat pour la commune. Et j'ai été engagée il y a un an pour faire ça.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le plan climat ?
C'est un plan qui va reprendre tout ce que fait la commune pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez ce que c'est un gaz à effet de serre ? Donc c'est par exemple le CO2. Donc c'est ce qui est émis quand on brûle de l'essence. Quand on brûle de l'essence pour sa voiture, quand on brûle du mazout ou du gaz pour se chauffer, par exemple. Et donc c'est un plan qui va reprendre tout ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de CO2. Pour 2030.
Anderlecht est-elle une commune fort polluée ?
Alors, c'est pas une question facile. Oui et non. Alors, en fait, la pollution, elle affecte à la fois l'air, l'eau et le sol. Moi, je travaille plutôt sur ce qui est l'air, vu que le CO2, c'est dans l'air. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la qualité de l'air à Anderlecht ? C'est que c'est fort différent. Par exemple, le long du ring, où il y a beaucoup de trafic, il y a une pollution de l'air plus importante. Ou le centre d'Anderlecht, ou plus vers Kurgem, il y a une pollution de l'air qui est plus importante parce qu'il y a plus de personnes au même endroit. Et il y a plus de trafic au même endroit. Ça veut dire qu'il y a plus de polluants au même endroit. Et alors, ça affecte la qualité de l'air.
Mais il y a aussi tout ce qui est déchets. Est-ce que tout le monde vit ici dans la commune d'Anderlecht ou il y en a qui vivent ailleurs ? Donc, est-ce que pour vous, c'est une commune où il y a beaucoup de déchets ?
Oui.
Ouais. Il y a parfois beaucoup de choses qui traînent dans les rues. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les déchets dans la rue amènent les autres déchets dans la rue. Et au plus on laisse les déchets au sol, au plus ça va en amener d'autres. Donc si quelqu'un voit que son voisin met son matelas, son frigo dehors en se disant la commune de toute façon vient ramasser, les autres vont le faire aussi, etc. Le Calan, pendant la nuit, c'est très facile pour venir décharger des déchets. Donc il y a parfois des gens qui viennent décharger des cargaisons de déchets dans le canal. Il y a des choses qui sont mises en place.
Quelle est la plus grande cause de pollution au sein de notre commune et quel impact a-t-il ?
Ben alors, je vais reparler de la qualité de l'air et après, je vais laisser Sophie compléter. Une grosse source de pollution sur la commune, et en fait, c'est sur toutes les communes en général, ça va être tout ce qui est émissions qui viennent des voitures. Et donc, ces émissions qui viennent des voitures, elles affectent directement la qualité de l'air qu'on respire. Mais il y a aussi une grande source d'émissions qui est, comme je disais, le chauffage. Donc chaque fois qu'on brûle du gaz pour se chauffer, on émet des gaz qui affectent la qualité de l'air.
Existe-t-il des sanctions si on ne respecte pas l'environnement ? Quelles sont-elles ?
Donc oui, il existe des sanctions et une chose importante, c'est que la commune doit sensibiliser les habitants pour informer. En fait, si vous faites ça, il y a une sanction. Parce que parfois, les gens ne sont pas au courant. Mais si vous jetez un papier par terre, on peut vous verbaliser et vous dire c'est 50 euros d'amende. Ou si vous jetez un mégot de cigarette, c'est autant.
Comment organiser la propreté de notre quartier ?
Donc, il y a différents quartiers, des équipes d'ouvriers communaux qui vont s'occuper de vraiment tout ce qui est propreté, avec d'autres qui vont s'occuper de tout ce qui est espace vert. Si un parc fait partie d'un quartier, ben, un ouvrier communal qui s'occupe des espaces verts, il va peut-être élaguer l'arbre ou ramasser les feuilles. Et quelqu'un dans son équipe qui s'occupe plutôt de la propreté, il va ramasser les déchets, par exemple, qui sont dans le parc, ou vider la poubelle, etc. Ils ont chacun leurs compétences. Les ouvriers travaillent du lundi au vendredi. Et depuis quelques temps, on les fait aussi travailler en soirée et le week-end. Parce que les déchets ne s'arrêtent pas à 4 heures et, ni le week-end.
Quelles sont les initiatives de la commune pour limiter la pollution environnementale ?
Mais donc Sophie a parlé de la propreté et il y a même un nouveau plan propreté dont M. Neuzy va vous en parler. Mais sinon, il y a aussi, donc je parlais du plan climat, mais il n'y a pas que le plan climat. Il y a aussi un plan pour améliorer la mobilité, donc améliorer les transports dans la commune. Et ça, c'est pour donc limiter, pour diminuer en fait les voitures sur la commune. Par exemple, encourager le vélo. Il y a aussi un plan pour suivre les consommations d'énergie. On rapporte en fait combien on consomme dans les bâtiments pour se chauffer, par exemple. Et alors, on suit ça pour voir comment est-ce qu'on peut diminuer ça. Il y a aussi un plan pour la nature, pour améliorer la nature, pour augmenter la biodiversité sur la commune. Cette biodiversité, elle est importante pour nous, par exemple. Ce qui est important pour les abeilles, quand on parle des abeilles, la biodiversité, c'est important que les abeilles elles puissent aller se nourrir de plein de fleurs différentes. Et c'est cette biodiversité dans toutes ces espèces de fleurs différentes qui vont apporter de la nourriture aux abeilles. Et ces abeilles, elles sont importantes parce qu'elles font aussi du miel pour nous et elles rendent aussi des services à nous. Et donc c'est important de préserver cette biodiversité et même de l'augmenter en fait. Parce que pour le moment, elle est menacée. On parle d'une diminution de biodiversité. On parle souvent du réchauffement climatique ou du changement climatique, mais il y a aussi un problème en termes de biodiversité où la biodiversité, elle diminue. Et ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus assez d'espèces sur Terre. Et donc, c'est encourager cette biodiversité.
Par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fauchage tardif. Si, par exemple, la commune tond un parc, je veux dire, il ne va plus avoir grand-chose pour l'abeille de venir. Par contre, si la commune se dit « Ok, je vais tondre à certains endroits, parce que les enfants aiment bien jouer au foot à cet endroit-là, mais cette zone là-bas, dans le fond, je ne vais pas la couper, je vais la laisser un peu, je vais laisser la nature venir comme ça. Les oiseaux, en fait, quand ils se baladent, ils transportent des graines, et donc il y a des choses qui fleurissent à gauche et à droite. Sans qu'on ait semé quoi que ce soit. En fait, c'est la nature, c'est les animaux qui le font eux-mêmes. Il y a des animaux qui ont des poils, par exemple, qui promènent des graines sur eux aussi, sans s'en rendre compte. Mais si les ouvriers communaux, à chaque fois, ils viennent tondre tout le parc, alors on va avoir une belle pelouse comme un terrain de foot. C'est super, un terrain de foot. Vous jouez peut-être au foot aussi, le terrain, il est nickel. Il n'y a pas un trèfle ou une pâquerette à gauche et à droite. Mais l'abeille, elle a besoin de ça aussi. Et l'abeille, c'est important pour aller polliniser les fruits. Et c'est comme ça aussi qu'on a notre alimentation, qu'on peut manger ce qu'on mange. L'abeille est hyper importante dans tout ça. La commune, ça, c'est une initiative qu'elle fait aussi. C'est à certaines zones, elle va dire, là, je ne vais pas faucher. On appelle ça le fauchage tardif. Et généralement, elle, si vous observez un peu, elle met des panneaux pour dire, ici, prairie en fauchage tardif. Parce que parfois, il y a des gens qui téléphonent à la commune et qui disent, ouais, ce n'est pas entretenu. Le terrain, là, il est laissé à l'abandon. Et en fait, la commune fait exprès de laisser comme ça, mais donc il faut que ce soit un peu... Il faut toujours bien informer. Ça, je pense que c'est important. On en parlera aussi dans les autres questions.
Que pouvons-nous faire, nous, élèves de 5e année, à l'école, pour aider à limiter notre impact écologique ?
Mais donc, la première chose, c'est peut-être, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est faire un peu un diagnostic de votre comportement à l'école, par exemple, de votre journée, en vous disant, OK, quand j'arrive à l'école, je viens comment ? En vélo, à pied, en voiture, en transport en commun ? Et puis quand je suis en classe, est-ce que j'utilise par exemple du matériel que j'ai récupéré de l'année passée, par exemple ? Est-ce que chaque année, vous vous rachetez une farde, vous vous rachetez un cartable, vous vous rachetez des bics, etc. Voilà, voir un peu comment est-ce que vous consommez, est-ce que vous utilisez un peu des choses de récup d'année en année. Ben, on peut réutiliser son plumier, son cartable, etc. Ses crayons, aller jusqu'au bout de ses crayons, etc. Voilà. Est-ce que vous produisez beaucoup de déchets ou pas? Il y a aussi ce que vous mangez à midi ou à la collation. Je pense que ça peut être important si vous avez cette ambition-là. En tout cas, c'est vraiment faire un diagnostic voilà, de votre journée. Ah ben tiens, à midi, moi je mange toujours des tartines emballées dans un emballage que je jette après. Ah mais moi je mets toujours mon eau dans une gourde que je lave à la maison et je la réutilise. Voilà, est-ce que quand vous mangez à midi, vous produisez beaucoup de déchets? Est-ce que ce que vous mangez à midi, ça vient de loin par exemple ou pas? Ou est-ce que vous mangez plutôt à 10h, vous mangez plutôt une pomme ou vous mangez plutôt... vous voyez, il y a des petites compotes là, emballées dans des... Ben, la différence de consommation d'énergie pour produire la pomme et pour avoir transformé la pomme en ce petit sachet, c'est énorme. Ça n'a pas le même impact environnemental. Donc, ça aussi, vous pouvez réfléchir par rapport à ça. Ah oui, il y a le tri aussi. Trier, effectivement, bien trier en classe, etc. Je ne sais pas si vous avez des poubelles
oui,
de tri.
On fait ça à l'école depuis la maternelle jusqu'à 6e primaire. Donc, normalement, ils sont habitués à trier.
Voilà.
Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est observer la nature dans l'école. Déjà, regarder ce qu'il y a comme insectes, comme oiseaux, comme arbres, peut-être en plantés, des nouvelles.
Des
potagers. Essayez d'apporter de la nature dans l'école pour que vous soyez plus proche de la nature et que vous puissiez aussi mieux la comprendre. Parce que quand on comprend mieux quelque chose, on en prend plus soin aussi.
C'est ça, de ne pas hésiter à se mettre en lien dans les cours. Avec la nature, voilà, s'il fait beau, de se dire bah, tiens, on va donner cours dans un parc ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que c'est clair que si vous prenez conscience au fait que vous êtes un être de la nature, vous aussi, et donc d'être plus en lien avec son environnement écologique, ça, après on a plus tendance à le respecter, essayer de faire des travaux, soit d'observation, mais aussi de compréhension et de. Ça peut être intégré dans les mathématiques, dans le français. Et donc ça, c'était quelque chose aussi qu'on voulait rajouter. C'est important de s'informer aussi, de s'informer et d'être attentif aussi au greenwashing. Qui a déjà entendu parler du greenwashing? Donc c'est la contraction de deux mots en anglais. Green, ça veut dire vert. Donc si vous avez cours de néerlandais, c'est groen. Hein, et washing, ça veut dire laver, quoi. Donc c'est... Greenwashing, c'est laver vert, quoi. C'est les entreprises, elles utilisent souvent ça. Donc elles vont vous mettre un produit dans un magasin en mettant du vert autour, et vous allez penser ah il est vert, alors il est écologique, c'est bon, je le prends, etc. Et donc faut bien parfois aussi quand on est dans les magasins ou quoi lire les étiquettes ou voilà ou s'informer. Si quelqu'un dit ah oui ça c'est super pour l'environnement, ils mettent plein de vert partout, on se dit on va faire ça et en fait, ben, non, c'était pas si bien que ça. Donc ça, je pense que c'est important.
Oui, et aussi qu'en fait, même si vous pensez que la chose que vous faites est toute petite par rapport
à l'ampleur
de l'environnement, ben, en fait, tout ce que vous faites, ben, ça influence peut-être quelqu'un d'autre aussi. Vous influencez les autres par votre comportement. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de faire des petits pas. On n'a pas besoin de changer le monde comme ça demain, mais tout ce que vous faites, chaque petit pas en avant, ça va être un pas qui va faire plein d'autres petits pas parce qu'il va influencer les autres aussi.
Vous connaissez la légende du colibri ?
Oui, voilà.
Le colibri, en fait, c'est un petit oiseau qui va éteindre un feu. Il va éteindre le feu. Il y a tous les animaux qui lui disent « Mais tu n'y arriveras jamais, tout seul à éteindre ce feu ». Et il dit, c'est pas grave, au moins je fais ma part. Si on est tous un petit colibri, bah, au final, le feu, il peut s'éteindre. Quoi. Donc, c'est un chouette truc à voir en citoyenneté. Et alors aussi, il y a la bienveillance. Ça, je pense, c'est important. Parce que parfois, quand on commence à faire attention, on se dit, ah, j'ai pas envie de produire trop de déchets, etc. Je fais attention et tout. Parfois, on peut un peu se rendre coupable si on produit à un moment donné un déchet ou quelque chose comme ça, ou si on ne fait pas bien ci ou ça. Donc ça, je pense que la bienveillance envers vous-même, ça va aussi avec les petits pas.
Comment pouvons-nous sensibiliser les jeunes de notre quartier à être plus attentifs à ces problèmes environnementaux?
Vous pouvez peut-être organiser une journée avec les habitants, chacun embellit son pied d'arbre, ou ne fût-ce que les informer. Vous savez, en fait, vous pouvez embellir votre pied d'arbre, vous pouvez planter des choses. Et alors, se dire aussi que le beau attire le beau. Si vous essayez d'embellir votre quartier, réinformer les. Si, par exemple, vous trouvez que les trottoirs ne sont pas propres, normalement, c'est aux citoyens d'entretenir le trottoir devant chez lui. Et c'est vrai qu'à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense, tout ce qui est niveau chauffage, se dire, je diminue le chauffage et je mets un gros pull. Quand vous cuisinez, si vous cuisinez et que vous chauffez votre casserole pour les pâtes, par exemple, et que vous ne mettez pas le couvercle, toute la chaleur va partir. Il y a la mobilité aussi. Est-ce que vos parents vont souvent faire des courses dans des magasins où on consomme local, etc. Enfin, ou tout au moins essayer. Il y a dans des magasins, on met d'où ça vient. Et c'est clair que si vous consommez, par exemple, de saison, pour l'instant, est-ce que c'est la saison des fraises ? Non. Après, est-ce qu'il y en a dans les magasins ? Certainement. Dans certains magasins, il y en a. Et donc, c'est toujours ça de se dire, c'est pas normal qu'il y ait, que je puisse manger tel fruit ou tel légume en ce moment. Et si je peux le manger, c'est qu'il vient de très loin. Ça aussi, c'est un chouette travail à faire à l'école. C'est combien de kilomètres a parcouru mon assiette ? Parce que parfois, on mange des produits qui viennent de super loin. Quel est le trajet que fait la crevette de la mer du Nord ? Si vous mangez parfois des crevettes, ça coûte très cher, mais une crevette de la mer du Nord, elles sont parfois envoyées en Tunisie pour être déchiquetées et tout ça. Ah oui, c'est... vous allez apprendre plein de choses si vous commencez à investiguer. Après, comme je dis, il faut aussi de la bienveillance envers soi-même, parce que il y a des aliments qui sont bons pour la santé, comme la banane. On n'en produit pas ici, mais donc dites-vous qu'en tant que citoyen, quand vous achetez quelque chose, c'est une façon de choisir le monde que vous voulez, au fait. C'est une façon de voter, au fait, une façon de dire, je veux qu'on reproduise local, etc. On s'en rend compte maintenant ici avec ce qui se passe en Ukraine, que si nous, la Belgique, on est dépendant de tous les autres pays pour nous fournir en alimentation et tout, à un moment donné, s'il y a un problème dans ces pays-là, comment est-ce qu'on fait, nous? Donc, c'est... parfois, on doit être bienveillant envers soi-même aussi, parce qu'on n'a pas toute la responsabilité sur nous. Il faut aussi relativiser...
Oui, c'est ça. C'est qu'à chaque niveau, on fait un effort. Donc, chaque niveau, c'est-à-dire nous, en tant que citoyens, la commune, et puis la région, et puis la Belgique, et puis l'Union européenne, et puis... les pays du monde entier avec l'ONU, chaque niveau, on a tous à contribuer.
Leçon d'enfant.